C'est quoi l'emballage de demain ou l'emballage demain? Alors j'ai pour cette petite table ronde, ces échanges, j'ai avec moi trois éminentes personnes, Françoise Bresson, directrice RSE de Nestlé Waters, Bertrand Zwiderski, directeur RSE de Carrefour, et Hugues Pelletier, fondateur et CEO de Petrel, et qui vous expliquera ce que c'est que Petrel, à part être un oiseau, c'est aussi autre chose un peu liée à l'emballage. Alors comme il fait chaud, on a mis des bouteilles d'eau pour chacun. Vous avez vos micros et ça commence bien puisqu'en fait ce sont des bouteilles d'eau en plastique. Et je crois que Françoise, c'était juste pour te lancer.
Oui,
Et
c'est pour moi, ça, si on parle
voilà, c'est
bouteille en
pour toi.
plastique, c'est ça. Donc, ce
Pourquoi une
sont des
bouteille en
bouteilles d'eau
plastique?
minérale,
Oui.
pas des bouteilles d'eau, des bouteilles d'eau
Pardon,
minérale.
d'eau minérale, pardon.
Oui, ce sont des bouteilles d'eau minérale en plastique. Donc, quand on parle d'emballage de demain, je n'ai pas encore la réponse pour pouvoir vous dire il n'y aura plus de plastique et on ne mettra plus notre eau dans des bouteilles en plastique, parce que la réponse, on ne l'a pas encore. Par contre, ce qui est vraiment important pour nous, en tout cas, hein, puisqu'on est un acteur de cette industrie-là, c'est de montrer que la bouteille en plastique est une ressource. Et c'est aussi ça qui est fondamental pour les consommateurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à mettre en place des systèmes vraiment d'information et de sensibilisation, et qu'on fasse nous aussi, qu'on apporte des preuves sur cette notion de ressource. Ça passe par beaucoup d'axes, ça passe par augmenter la collecte. Pour recyclage, ce qu'il faut que vous reteniez comme chiffre en France, parce que en fait, quand on parle de la bouteille en plastique, évidemment, on pense à la pollution plastique. Forcément, c'est au cœur des enjeux sociétaux et on ne peut pas passer au travers. Et chaque fois qu'on parle de la pollution plastique, c'est la bouteille qui est prise en symbole. Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi cette bouteille est prise en symbole. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, 99% des bouteilles sont collectées. Le problème, c'est que sur ces 99%, seuls 57% sont recyclés. Il y en a 30% qui sont valorisés énergétiquement, et il y en a 12% qui sont enfouis, parce que les communes ne sont pas organisées pour pouvoir les brûler, donc récupérer l'énergie. Et il y en a 1% à peu près qu'on n'arrive pas à collecter, qui finissent en déchets sauvages. Et ce 1% est inacceptable pour nous. Donc ça, c'est la problématique en France. On a d'autres problématiques en Asie, parce qu'en fait, la pollution plastique, il faut qu'elle se regarde au niveau global. Et donc, ce qui est fondamental pour nous, c'est qu'on arrive à augmenter ce taux de collecte pour recyclage et qu'on passe de 57% à un jour 100%. Notre objectif, nous, chez Nestlé Waters, qui est un objectif très très ambitieux, puisque c'est un pourcentage qui a très très peu évolué ces dernières années, c'est de passer de 57% à 90% en 2025. 2025, c'est demain. Mais c'est fondamental parce qu'on se rend compte que si on arrive à rassurer le consommateur sur cette bouteille va avoir une deuxième vie, troisième, quatrième ou cinquième vie, c'est-à-dire qu'on rentre dans une économie circulaire, on a un pan du problème qui disparaît. Alors, je vous disais tout à l'heure, cette bouteille, elle est prise en symbole pour plein de raisons. D'abord parce que pour faire du plastique aujourd'hui, il faut du pétrole. Donc on vous dit c'est une industrie polluante, donc c'est un produit polluant. Donc ça, c'est la partie amont. Et sur la partie aval, ben, quand elle n'est pas bien triée et quand elle n'est pas recyclée, elle peut finir demain dans la nature. Et donc, du coup, c'est de nouveau polluant sur la partie aval. Et au milieu, ben, c'est de l'eau. Et en France, on a la chance d'avoir de l'eau du robinet qui est de bonne qualité. Donc, c'est un produit qui est substituable. Donc, c'est un produit qui est inutile. Et donc, en plus, pour illustrer cette inutilité-là, bien sûr, les images qu'on a et qui sont juste terribles sont des images de bouteilles qui finissent dans les océans. Et je peux vous assurer que nous, on ne les produit pas pour qu'elles finissent dans les océans. Donc, on a un pan important sur la collecte, un pan important sur l'économie circulaire, donc comment je réintègre du plastique recyclé dans mes produits, un pan important d'innovation, comment je fais demain pour que mon produit ne soit par exemple plus à base de pétrole, donc je vais aller chercher du bio-PET, comment je fais demain pour inventer le nouveau emballage. Donc comme je vous le disais, je n'ai pas encore la réponse parce que tout ce qui est pipe innovation, c'est quand même très long, et après il faut les mettre à l'échelle industrielle. Donc c'est important de voir la notion de temps. Et pourtant, on n'en a pas beaucoup du temps. On n'en a pas beaucoup par rapport aux grands enjeux sociétaux. Et le dernier pan, c'est le pan de sensibilisation. Parce qu'on nous accuse souvent de dire « Ah, vous pointez du doigt le consommateur. » En fait, sans le consommateur, il ne se passera rien. Parce qu'on aura beau tout faire, si le consommateur ne fait pas le dernier bon geste, si la bouteille ne va pas dans la bonne poubelle, j'aurais beau avoir tout fait avant,
ça servira à rien. Donc comment on arrive à expliquer tout ça au consommateur, à rentrer dans une approche de pédagogie et surtout lui faire comprendre les enjeux?
Alors Bertrand, les consommateurs viennent dans des points de vente de Carrefour ou achètent sur le site de e-commerce de Carrefour. Il y a Act for Food et je crois, si ma mémoire est bonne, c'est le numéro 13. Acte 13. Est-ce que tu peux juste en dire un peu plus et dire en fait comment Carrefour s'inscrit dans cette logique de réduction des emballages ou de modification de l'emballage ou de sensibilisation du consommateur?
Oui, d'abord j'aurais quand même témoigné de l'urgence du sujet, mais j'étais dans une réunion chez nous en Espagne avec une dizaine de consommateurs dans un magasin pour évoquer le sujet du commerce équitable. Une réunion, ça nous arrive de faire des petits déjeuners, un quart d'heure sur le commerce équitable, 1h30 sur le plastique. En Espagne, pas notre pays avec la plus grande sensibilité environnementale. Je reçois d'Argentine, je reçois du Brésil le même sujet. Quand est-ce que vous arrêtez le plastique? C'est ça le sujet. Et c'est la première fois, moi ça fait que 7 ans que j'ai ce poste chez Carrefour, c'est la première fois qu'une campagne portée par les consommateurs, les ONG, etc., est aussi internationale, aussi rapide et aussi ciblée. Le sujet, c'est plastique. Je vais vous montrer juste un exemple. Tiens, Hugues, tu peux juste me tenir le micro.
Elle est venue avec des produits en plus. Ah, mais c'est ça, bravo.
Ouais. Elle porte le micro.
C'est un travail d'équipe, hein, de toute façon. C'est collaboratif.
Vous voyez, ça, on lance une banane bioéquitable dont nous sommes très fiers. Voilà, un tiers de nos ventes, grosse transformation du marché. Qu'est-ce que voit le client? Donc, on lance ça il y a 3 ans. Oui, on fait 20 000 tonnes. Qu'est-ce que voit le client aujourd'hui?
Le sac en plastique.
Attendez, il ne voit même plus ma banane. Il ne voit que le sac en plastique. Et aujourd'hui, ce sac en plastique, qu'est-ce qu'il fait? Il me réduit mes ventes. En fait, il me les stagne. J'arrive plus à progresser. En fait, sur les produits bio, aujourd'hui, il y a comme une incohérence totale à avoir du plastique et il y a comme une incohérence totale pour le consommateur. Et le consommateur, ce qu'il déteste le plus chez nous, c'est de rentrer de ses courses et d'avoir une montagne de plastique à éliminer. Ça, c'est clair que... Et notre job à nous, je pense, tous, hein, ici, c'est de trouver des solutions. Des solutions qui vont être complexes parce qu'on a mis 60 ans à faire que jamais, quand on m'a proposé la banane bioéquitable, jamais personne m'a dit, bon, on fera autrement. On m'a mis un sac plastique. Pourquoi on m'a mis un sac plastique? Parce que la machine de conditionnement, elle est dédiée à ça et qu'elle utilise le plastique. Et en fait, c'est toute une mécanique qu'on a mise en œuvre d'efficacité et d'optimisation qui fait qu'on a ça aujourd'hui. Et je peux vous dire, et Hugues en parlera tout à l'heure, quand on lance le projet Loop, eh bien, on a l'impression que c'est un grand torrent qui nous arrive sur nous et que nous, on est un peu en train de nager à contre-courant dans un système et on va le faire. Mais il faut quand même tout reprendre à l'envers. Et voyez, par exemple, sur cette banane, ce qu'on va faire, Hugues.
En fait, on a... Ah, donc, tu vas retirer tous les sachets plastiques de toutes,
ouais,
les...
Ouais, alors, j'ai eu une autre idée, je vais éviter d'en mettre. Mais,
D'accord.
Mais celle-là, elle était facile. Par contre, ce qui était plus compliqué, c'est de continuer la vente par 5. Et donc, on a trouvé un genre d'anneau qui soit, lui, valorisable aussi, qui soit positionné dans les pays producteurs et qui passe au travers du mûrissoir, etc. Mais vous voyez, là, rien qu'un petit anneau comme ça, c'est complexe. Parce que ce sachet-là, il est facile pour moi industriellement. Il me coûte pas cher. Mettre un anneau autour, vous voyez bien que le process industriel pour l'anneau est complexe. Et je vais avoir ça pour tout. Je vous montre un autre exemple.
Ça fait un peu magicien.
Ouais. Concombre. Vous le voyez... Attends, je vais reprendre quand même. Et ce concombre, vous le voyez là? Vous vous souvenez de ce concombre en plastique?
Oui. Ouais.
Ben ça, les clients n'en veulent plus du tout, quoi. Et vous avez vu, c'est des millions et des millions de concombres. Le concombre en plastique, il nous était bien pratique, hein. Il passait bien dans la machine. Et il passait à une vitesse dingue, je suis allé voir. Et celui-là, où on va lui mettre une collerette bio...
Non, non, rien. Vas-y, continue, enchaîne.
C'est quand même dingue, ça, non?
Enchaîne.
C'est avec une collerette, vous voyez la complexité industrielle pour réussir à le faire.
D'accord.
Tout ça, c'est devant nous. Et je suis d'accord avec Françoise, pas sur tout, mais en tout cas sur ce qu'elle a dit. On a mis 60 ans à faire le... On a mis 60 ans à ce que votre concombre, il arrive en magasin, dans du plastique, etc., etc. Et bien, on a beaucoup moins de temps pour réussir à l'enlever. Et ça, c'est vraiment notre challenge. C'est de réussir à faire une marche arrière tout en garantissant la qualité, la sécurité alimentaire, la conservation des produits Et là, je fais juste une parenthèse. Non, la conservation des produits, on ne l'aura pas. On n'arrivera pas à avoir le même service avec des produits en DDM à un mois ou en DLC à 15 jours. On va perdre en garantie de fraîcheur du service, c'est clair.
Et concrètement, sur les concombres, là, parce que tu prends cet exemple-là, est-ce que les ventes ont augmenté, diminué, stagné ?
Aujourd'hui, on a commencé à le supprimer pour la nouvelle campagne, donc qui démarre en bio. Et j'ai pas encore les chiffres d'augmentation, mais par contre, dès septembre-octobre, dès le concombre désaisonnalisé, on n'aura plus de plastique. Et là, je suis persuadé que oui, on aura un effet. En tout cas, on aura une croissance normale sur le concombre, alors qu'on aurait peut-être pu avoir une décroissance des ventes liées au plastique. C'est très urticant pour le consommateur, ce plastique. Et le plastique du concombre, hyper urticant.
Coupant aussi, parce que quand
mais,
tu coupes,
non, mais un autre exemple, si j'ai encore... Parce que
bien
le timing,
sûr, bien je sûr, bien sûr, bien sûr.
Vous voyez, au rayon, je prends moi tout de suite, au rayon boucherie, charcuterie de tous les magasins, de tous les distributeurs, je ne parle pas que de Carrefour, je parle du international. Vous savez, vous prenez un morceau de fromage, on vous le met dans un papier aluminium, un peu scellé, etc. Et après, on vous le met dans un sac plastique, et hop, on vous met un ticket de caisse. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, le truc de fou, quoi. C'est-à-dire que ça, le consommateur, il y a des consommateurs qui sont plus prêts à comprendre ça. Et donc, on a lancé le projet dans lequel on peut venir avec son propre contenant. Ça paraît tout bête, mais il fallait juste déverrouiller, des problématiques incroyables. La sécurité alimentaire. Comment je fais pour que le client qui m'a amené son Tupperware... je lui garantisse que son produit sera sain quand il va arriver à la maison. Comment je fais pour la tare de toutes les machines? Donc vous imaginez, toutes les machines dans tous les magasins, est-ce qu'ils ont une tare nécessaire, etc. En fait, rien que arriver en rétropédalage sur des sujets aussi basiques que ça, la mécanique, elle est complexe. Et venir en sens inverse, c'est très, très compliqué.
Donc là, en fait, tu parles finalement d'emballage réutilisable. Il n'y a pas de suremballage, par exemple, pour la banane ou machin. Là, ça, c'est un emballage qu'on va réutiliser.
C'est ce qu'on appelle du réemploi.
Réemploi, pardon.
C'est du réemploi.
Oui, okay. Réemploi.
Et donc ça, c'est pour faire l'enchaînement sur Hugues, ça ?
Ouais, bravo.
Bravo. Bravo, 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 l'enchaînement.
Donc c'est réemployable ou c'est réutilisable ? Loop. Qu'est-ce que c'est que loop, en fait ? Ou pétrel, qu'est-ce que c'est avant ? Je vais passer le...
Hop. Non, on va justement parler du... Merci. Ouais. Donc c'est toi qui vas m'aider ce coup-là, Bertrand. Ouais. Non, donc on va parler de consignes et en effet, comme dit Bertrand, comment on remonte le flux pour revenir à une activité qu'on avait il y a une quarantaine d'années dans les super les hypermarchés et entre autres chez Carrefour, le fait de ramener sa bouteille une fois consommée en magasin pour se la faire rembourser et puis ensuite repartir sur des flux de nettoyage et de remplissage. Donc ça, c'est le concept de loop. Et moi, l'activité de Pétrel, c'est justement l'intégrer chez les distributeurs et en premier lieu chez Carrefour. Et l'idée du constat, la réflexion au départ, c'est de se dire, vous voyez, par exemple, j'ai pris ce café hein, qui était très bon, du reste, Café Royal, tout à l'heure, et finalement, j'ai utilisé quoi ? 20 secondes, 30 secondes ? Et après, il va partir à la poubelle, éventuellement au recyclage. S'il était trop chaud, peut-être, j'aurais peut-être fait une minute en même. Et c'est quand même assez, assez frustrant. Et l'idée, pour répondre à la question de qu'est-ce que va être l'emballage de demain, ça va être vraiment autour de trois notions. Ça va être en emballage qualitatif, en emballage innovant, et ensuite zéro déchet. Et c'est bien autour de ces trois valeurs que s'articule le projet Loop. Et je vous donne juste... l'exemple de ce petit mug ici, où on voit à la fois, donc c'est l'inox, et c'est vrai que finalement, c'est valorisant, le produit est beau au contact, et finalement, met en valeur le produit qui est à l'intérieur. C'est une première chose. Deuxièmement, il est innovant. Vous voyez, il a une petite poignée, là, je peux me presque l'accrocher, partir avec. Et puis, il est aussi, c'est l'inox double couche, donc il est isolant aussi. Mon café qui sera dedans, je pourrais le boire chaud plus longtemps. Et puis la dernière dimension, qui est quand même super intéressante, c'est que moi je vais le nettoyer, d'accord, et je vais le réutiliser le lendemain, et le surlendemain, etc. Donc on n'est plus du tout dans la même logique, même s'il a coûté plus cher en amont, on n'est plus du tout dans le même usage. Et ça, ce concept-là, ça se décline D'accord, parce que le projet a été lancé la semaine dernière à Paris et là en début de semaine sur New York. Ça se décline dans le projet Loop avec les différents types d'emballages que vous voyez. Et vous voyez aussi comme ça en panel d'un certain nombre d'industriels qui ont signé le partenariat avec Loop au niveau mondial. Vous voyez le premier exemple, c'est une bouteille d'Evian, d'accord, la bouteille de plastique qui passe une bouteille en verre. Ça, c'est très classique. Il n'y a pas beaucoup de transformation et de changement, mais c'est quand même, on repart sur un usage vert. Le Coca, l'exemple suivant, c'est presque un peu plus intéressant parce que la bouteille de Coca, 33 centilitres, ou la bouteille de Coca, en tout cas, n'était plus en vente en verre, en grande consommation, c'était uniquement dans les cafés-restaurants. À travers ce projet, on remet en vente la bouteille en verre et qui a un apport supplémentaire, c'est que le goût du Coca n'est pas le même dans une bouteille en verre que dans une bouteille en plastique. Je ne suis pas un grand spécialiste, c'est ce qu'on m'a dit, mais il y a quand même un effet gustatif.
Si, c'est vrai.
Toi, un spécialiste.
Voilà. On ne voit plus maintenant.
Merci de confirmer. Ouais. Donc, ensuite, il y a Pepsi, d'accord, il est présent ici, avec Tropicana, qui est là pour revenir sur du jus d'orange en bouteille en verre. Mais là, qui demande aussi un peu plus d'effort, parce que les chaînes industrielles ne sont plus les mêmes. D'accord, donc là, l'effort est un peu plus important, mais ça a quand même un côté qualitatif sur une table de petit-déj. Je sais pas. Non, mon voisin semble avoir des doutes là-dessus. Mais on pourra ouvrir le débat, deuxième partie. Ensuite, il y a Mondelez avec du Milka. Il y a beaucoup d'emballages sur emballages. D'accord, l'idée, c'est avoir des belles bouteilles assez design. Et un peu comme il y avait les bouteilles, les boîtes de lu il y a peut-être 30, 40 ans, avec un réemploi, un réusage. Vas-y.
Ce qui est important quand même sur Mondelez là, parce que vous voyez, c'est le petit cake moelleux en sachet individuel. Et donc, ce qu'a été obligé de faire Mondelez, et il est encore en cours de travail, c'est de se dire comment je fais pour garder la fraîcheur du produit, le moelleux, etc. Et donc, dans la boîte que vous voyez, ils ont inventé un système avec un système de pompe qui va extraire l'air, l'humidité et qui va permettre de conserver le gâteau. Et en même temps, ils vont réussir à adapter un petit container à la format Mondelez pour le goûter, pour que les enfants puissent l'emmener en goûter. Donc, c'est quand même important de comprendre que toute l'essence du projet, c'est d'être fier de son emballage un peu. En fait, il faut trouver l'emballage beau, il faut être fier de l'emballage dans sa salle de bain. Et c'est un peu le pari là qui était très complexe pour Mondelez quand même, et sur lequel on a pas mal sué.
Et qui illustre à la fois que on met en place un emballage à la fois qualitatif dans ce cas-là et en plus innovant avec le fait justement d'enlever l'oxygène. Et ce qui est le cas aussi de l'exemple suivant avec Häagen-Dazs aux États-Unis qui dépend de Nestlé, ce qui n'est pas le cas en France, et là qui sont en train de lancer des glaces, donc Häagen-Dazs, en inox double couche, donc avec de l'air entre les deux, et qui permettent de maintenir le froid beaucoup plus longtemps. Et donc, on peut partir en pique-nique avec sa glace. Vous voyez, donc, on change l'usage aussi grâce à ça. Donc, on a Procter aussi avec du shampoing. On a aussi des produits, là, c'est Biscuiterie de Provence, mais ce qui est intéressant de voir, ce sont des PME qui viennent s'inscrire dans ce projet également avec des boîtes, des emballages standardisés en inox. Et c'est juste l'étiquette qui sera, elle, recyclable et qui sera enlevée et qui pourra, donc, en même emballage, pourra couvrir toute une gamme très large de produits différents sous différents formats. Et puis le dernier point, c'est également la MDD de Carrefour qui est impliquée dans le projet pour remettre en place donc des emballages réutilisables et sous forme de consignes.
Alors je vais prendre, il y a juste une question là sur Klaxoon plus une question. Oui, mais ça personne ne voit, c'est juste moi ça. Mais c'est une question du public. Enfin, c'est un commentaire, mais c'est une question que j'avais aussi que je vais poser pas forcément à Hugues, mais plutôt à toi Bertrand ou à toi François sur le fait que oui, ça, cet emballage réemployable, ça paraît une solution très intéressante. C'est ce qu'on avait effectivement, ce qu'on appelait la consigne avant. Ou peut-être pas complètement, si, c'est ça. Mais qu'est-ce que... et là, je vais faire le français qui doute, comme on a vu ce matin, si vous étiez là. Oui, mais ça, par rapport au transport, au nettoyage, le coût global, en fait, de l'opération, l'empreinte environnementale aussi de cette opération, finalement, est-ce qu'elle est vraiment intéressante par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, par rapport à du plastique totalement recyclé? Est-ce que c'est vraiment une solution d'avenir complète ou est-ce que c'est une solution parmi d'autres?
Alors, est-ce que, à ce jour, aujourd'hui, le système de consigne tel qu'on l'a conçu avec Loop est écologiquement plus intéressant d'un point de vue CO2? Non. le système actuel, je l'ai répété, on a 60 ans pour l'optimiser, etc. Ce système-là, une fois optimisé, une fois arrivé à un stade critique, il sera bien plus écologique que les systèmes d'économie linéaire d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à un volume, il faut arriver à un effet de masse, et il faut arriver à réussir à remporter le marché.
Mais il faut se lancer vite et fort pour que cet effet de masse et l'effet d'échelle en fait, arrivent plus, encore plus vite. Quoi.
Tout à fait. Alors nous, pour minimiser l'impact sur le transport, il n'y a pas que le CO2, il y a aussi l'emprise urbaine, on utilisera notre logistique à nous. On utilisera nos camions, on utilisera nos camions de livraison. Donc une fois que Loop sera un outil intégré à la plateforme de e-commerce de Carrefour, on utilisera la même logistique pour minimiser le CO2. Donc vous voyez, c'est déjà une première étape de l'optimisation. Et je suis certain qu'arriver, une fois que le projet arrivera à maturité, avec toutes les innovations qu'il y a derrière, parce que vous allez voir, on va revenir très souvent dans les deux prochaines années sur un certain nombre d'innovations qu'il y a derrière sous ces produits. Le champ des possibles est incroyable. Et à chaque fois, on essaiera d'optimiser le système, comme on l'a fait dans l'économie linéaire. Alors après, j'ai une deuxième réponse à la question, c'est que quelquefois, il faut choisir son combat. Il faut choisir vraiment son combat et il faut aller à fond. Et là, le combat contre les plastiques, je l'ai dit, il est monstrueux. Et c'est vrai que si on arrive à trouver une partie de la solution, parce que ça ne solutionnera pas tout le sujet, ça, hein, mais si on arrive à trouver une partie de la solution pour le plastique, c'est déjà un impact environnemental qui est aujourd'hui majeur et prioritaire.
D'accord. Vas-y.
Oui, moi j'avais juste une remarque, parce qu'effectivement, on pourrait se dire, mais pourquoi ils ne transforment pas tout d'un coup leur industrie plastique en industrie verte ? Sauf que là aussi, nous, on regarde de manière globale, puisque les volumes sont énormes, l'impact carbone. Et on sait qu'une bouteille en verre, alors vous avez différentes données, mais en général, si elle fait plus de 250 km, l'impact carbone
est moins bon.
Donc, ce n'est pas si simple. Le changement des process industriels, on ne peut pas, avec un claquement du doigt, changer son modèle. Donc c'est, en tout cas, on ne peut pas juste, alors je comprends tout à fait hein, ce que dit Bertrand, choisit son combat, on y va, mais quand on fait énormément de volume, nous on ne peut pas juste se dire, tant pis l'impact carbone. Quoi. Donc voilà, on ne peut pas transformer le modèle.
Alors juste Françoise, pour poursuivre là-dessus, le pacte plastique qui a été signé il n'y a pas longtemps, donc oui. Nestlé en est signataire, Carrefour aussi, et d'autres, c'est quoi exactement?
C'est une manière de passer du constat à l'action. Tu intégreras aussi des éléments parce que Bertrand a été au cœur des discussions. Mais en fait, ça va regrouper des industriels et des retailers et d'autres, puisque vous avez aussi Tara Expédition, le WWF qui vont vérifier, avec des entreprises qui vont s'engager autour de l'éco-conception, autour de l'augmentation du recyclage, autour de la sensibilisation des consommateurs, autour aussi du fait de dire on utilise du plastique, oui, mais comment on fait pour baisser notre consommation de plastique, comment on fait pour enlever tous les plastiques qui ne sont pas recyclables. Et là, du coup, les entreprises s'engagent et un engagement, ça doit être vérifié, suivi, etc. Et le pacte plastique, c'est vraiment ça. Pour moi, en tout cas, c'est passer du constat, oui, le plastique, c'est terrible, à l'action.
D'accord. Et il y a des mesures de ça, des mesures de succès dans le temps.
Tu veux répondre, Bertrand, parce que c'est toi qui es cheville ouvrière là-dessus.
Non, mais je vais te dire déjà, pour être plus pragmatique encore, c'est un acte volontaire avant que ce soit un acte obligatoire. Et c'est un acte volontaire qui est cette fois-ci est concerté avec l'industrie, donc je pense que c'est pas mal. Deux, c'est que c'est encore ouvert, puisqu'il y aura d'autres vagues. Donc j'espère qu'ici dans la salle, on aura de nombreux signataires encore du pacte plastique. Et puis trois, c'est que c'est une prise de conscience qu'ensemble, la collaboration, c'est la nouvelle forme de compétition maintenant. Se battre l'un contre l'autre, on ne trouvera pas les solutions. En tout cas, pour certains emballages.
Sur
certains sujets.
C'est pas moi qu'il faut le dire non plus. Enfin, c'est pas l'insu commerce qu'il faut le dire non plus.
C'est plutôt de se dire, c'est ensemble. Et on voit bien déjà les premiers effets du pacte plastique. C'est de se poser des questions ensemble. Je prends un emballage qui est un peu un symbole, le doigt pack. Le doigt pack. Je fais quoi du doigt pack? J'en ai de plus en plus. Certainement, vous avez peut-être des développements sur le doigt pack, etc. Est-ce que je le recycle? Je le recycle pas?
Le doigt pack?
Le doigt pack, c'est...
Doigt pack.
Ah, pardon. Ah, vous voyez que je... non, mais c'est bon. Et si je dis doigt pack, tout le monde comprend ou pas?
Ben oui, bien sûr.
Ah, tu t'en sors bien. mais beaucoup utilisent le doigt pack ici, non? Qui est-ce qui utilise le doigt pack? Levez la main, on peut voir. Et vous voyez, c'est quand même un sacré challenge. On a un sacré challenge devant nous sur cet emballage. Et je pense que c'est ensemble qu'on essaiera qu'on pourra trouver une solution. Sur D'accord. le toy pack.
Sur le toy pack. Benjamin reviendra là-dessus sur l'emballage aussi donc de Procter là, dans la séance de clôture. Je reviens sur Hugues. Juste un truc aussi sur le finalement Loop, les emballages réemployables qui sont là, ça va aussi augmenter le prix pour le consommateur au-delà du prix de la consigne. Mais est-ce que c'est une forme de premiumisation aussi? Est-ce que c'est une forme de valorisation du marché? Est-ce que c'est finalement et là c'est un peu pour tous les deux après, pour les consommateurs, en fait ce sont les consommateurs engagés qui vont être plutôt appétents pour aller sur ce système-là plutôt que des consommateurs lambda en fait.
Non, alors, l'objectif justement c'est très vigilant sur ce point-là, d'accord, et faire en sorte que le prix du produit soit le même, voire en centimes de moins, dans le cas de Loop, que le produit classique PGC. D'accord. Et ensuite, en effet, comme tu le dis, il y a un effort à faire par le client pour payer la consigne, mais c'est un effort de trésorerie. Il a l'engagement d'être remboursé au moment où il rendra son emballage. Donc ça, c'est sur les produits comparables. Après, il faut voir aussi Loop comme une capacité d'innovation, de mettre de nouveaux produits sur le marché ou des emballages très différents. Le jour où il y aura la fameuse boîte Milka auquel on enlève l'air, ben là c'est vraiment des choses de rupture. Et là, oui, on a plus de comparables, d'éléments comparables. Et donc, les acteurs du PGC pourront peut-être se positionner différemment. Mais quand même, l'objectif, c'est très vigilant en effet sur les.
Mais c'est important. Et ça, donc Bertrand, tu confirmes qu'en fait, les produits Loop, au départ, si j'ai bien compris, c'est que sur le site de e-commerce. C'est sur le site des commerces. Et il y aura, en fait, le prix sera le même, voire un peu inférieur pour inciter le consommateur.
Je confirme que l'objectif est que le prix soit inférieur.
D'accord.
Il est, d'un point de vue consommateur, vous achetez, quand vous achetez que le contenu et donc pas le contenant, le prix doit être inférieur. Et donc, D'accord. c'est ce à quoi il faut tendre. Alors, est-ce qu'on y arrive aujourd'hui? Non. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées ici, parce que et tu pourras témoigner, parce qu'industriellement, c'est compliqué. C'est plus compliqué de faire juste le contenu. Exactement le même sujet que sur le vrac chez nous. C'est plus complexe de faire juste du vrac. Mais par contre, d'un point de vue consommateur, c'est impossible de comprendre que ce soit au même prix ou que ce soit plus cher.
D'accord. Alors, il y a deux questions là qui viennent, et c'est justement sur le vrac. Donc, c'est finalement, si on ne veut pas faire de déchets, faut pas avoir d'emballage en fait. Est-ce que ça c'est vrai ou c'est pas
oui,
vrai?
Oui, il faut que toute la chaîne, d'accord, ouais. Faut que toute la chaîne logistique. Alors si par exemple, imaginons que dans un magasin j'ai du vrac, mais que je sois arrivé avec un emballage de 5 kilos et que cet emballage de 5 kilos je l'ai déposé dans des zones de vrac, j'ai quand même cet emballage. Donc il faut pousser un peu plus loin. Il faut se dire le projet Loop c'est vraiment le zéro emballage de A à Z. C'est différent du vrac, mais on doit arriver à ce système-là. Mais pourquoi pas imaginer un Loop version vrac? Ça veut dire que j'aurai les colonnes du vrac que vous voyez chez nous, chez le
distributeur. Et tu arrives avec ton contenant, mais
et qu'on le remplisse chez notre fournisseur et qu'il y a un système complet dans lequel je passe même plus par l'emballage secondaire. Ça, c'est à mon avis, c'est devant nous, ça.
D'accord.
Après, alors moi personnellement, je pense que c'est un rêve de se dire qu'il n'y aura jamais plus du tout d'emballage, parce qu'au bout d'un moment, ces emballages, même s'ils ont été réutilisés, resteront et devront être remplacés. Mais par contre, il faut vraiment intégrer, même sur ces emballages, l'éco-conception. C'est-à-dire que ces emballages doivent être une ressource à la fin et ils doivent être recyclés, donc recyclables, etc. etc. Oui, effectivement, le meilleur emballage est celui qui n'existe pas. Cette phrase, elle est connue, mais avec ça, on fait quoi? Voilà. C'est-à-dire que c'est un objectif, on doit y tendre, mais il faut intégrer vraiment tous les éléments de la chaîne.
D'accord. Et en termes d'innovation sur les emballages, justement, parce que tu m'avais cité pas mal de choses, ouais. Également sur des emballages biodégradables.
Effectivement, nous, on est vraiment avec le plastique au cœur des enjeux d'innovation. Parce que l'emballage de demain, si on ne veut pas demain être Kodak, il faut qu'on se réinvente, évidemment, très vite. J'ai parlé tout à l'heure du bio-PET, mais le bio-PET, c'est juste un pan qui ne résoudra pas le problème, puisqu'il faut aussi évoquer la fin de vie. Donc on travaille sur, effectivement, des packagings biodégradables. Mais là aussi, il faut raisonner en termes de ressources, c'est-à-dire que...
demain, on sait que déjà, on utilise bien trop de planètes et on est arrivé en mai.
C'est dépassé.
Voilà, c'est déjà dépassé, on l'a consommé. Donc, la ressource que j'utilise pour mon emballage, même si demain, elle est biodégradable, idéalement, il faudrait que je la récupère. Donc, biodégradable veut vraiment dire aussi circularité. Après, on travaille aussi sur, parce que là, on parlait de contenant, mais on parle aussi d'innovation sur le recyclage, puisqu'aujourd'hui, on a du recyclage mécanique. Demain, on s'oriente vers du recyclage enzymatique pour vraiment être aussi sur un recyclage à l'infini, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur le PET. Donc nous, par exemple, on a fait un accord avec Carbios, qui est une start-up qui travaille sur ces sujets-là, parce que c'est aussi fondamental pour nous. Parce qu'avant d'inventer le packaging de demain, il faut bien gérer celui-là. Et pour pouvoir être capable d'être dans une transition, il faut qu'on gère bien le temps qui nous reste.
D'accord. Alors, je fais une toute petite parenthèse, en fait, parce que vous avez parlé de plein de choses très intéressantes qui sont des choses qu'on travaille au sein de l'Institut du commerce. Donc, je voulais juste faire un appel à candidature. Il y a un atelier le 17 juin qui s'appelle l'atelier parcours d'achat des produits de marque avec emballage réemployable. En gros, c'est la suite de ce que vous avez vu ce matin sur le magasin de demain, et on poursuit un peu plus spécifiquement sur ces points-là. Donc, l'atelier est ouvert, inscription sur le site, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent. Fin de la page de pub. Et deuxième page de pub, c'est en fait, on travaille sur l'éco-conception et le recyclage des PLV dans la parfumerie sélective. Et donc ça, alors c'est pas exactement l'emballage des produits, mais c'est aussi une quantité de déchets assez colossale, de plastique, de carton, mais carton qui est plutôt bien réutilisé, mais de plastique en fait qui est un gisement, entre guillemets, de déchets à collecter et à recycler. Donc je le mentionne aussi parce que ça va démarrer concrètement dans 3 semaines maintenant, et dans la parfumerie sélective, on va essayer de migrer ça gentiment vers d'autres secteurs, y compris l'alimentaire. Fin de la page de pub de l'Institut du Commerce.
Non, mais c'est important, hein, parce que ouais. Nous, on vient d'écrire à certains de nos fournisseurs avec 3 demandes. Que les PLV soient 100% carton, 100% recyclable, que si elles ne le sont pas, en tout cas qu'on ait un système pour venir les récupérer. Parce que les PLV en magasin, je pourrais emmener beaucoup d'entre vous voir ce que une arrière-cour d'un magasin.
C'est une horreur.
C'est une horreur. Donc, qu'on ait insisté. Et nous, on ne sait recycler dans un magasin que du carton ou de la housse plastique. Donc on vient de demander ça. Deuxièmement, on vient de demander que toutes les housses soient transparentes, qu'elles soient plus colorées, avec des systèmes qui nuisent au recyclage. Qu'elle soit traitée anti-UV ou pas, mais en tout cas qu'elle soit pas colorée. Et la troisième chose qu'on a demandé, c'est que si tout ça n'est pas possible, que soit bien identifiée la matière et que surtout soit identifié le moyen de récupérer tout ça dans nos magasins. Et donc on va lancer un programme qui a démarré là il y a un mois. On se donne encore 3 mois pour finaliser avec 150 de nos fournisseurs. Donc si vous aussi, d'accord, vous avez ce type de solution pour nous, nous on est preneurs. Mais en tout cas, oui, je vous confirme que la PLV, elle est dans le collimateur de beaucoup de distributeurs.
Parfait. Parfait. En termes de, et ce sera peut-être la dernière question de ces échanges, en termes de transition justement et de vision, en fait, en combien de temps? Tu disais, Bertrand, qu'on a mis 60 ans à avoir des emballages qui soient industrialisés, qu'on a envie de changer maintenant. Est-ce qu'on peut se permettre de mettre 60 ans pour changer tout ça? J'imagine que non. Mais est-ce qu'il y a là aussi, en fait, chacun d'entre vous, vous vous êtes fixé des objectifs dans le temps de dire je vais avoir X% de mes emballages qui soient de telle forme, totalement réemployés, réutilisés, recyclés, à horizon 2020, 2025, j'en sais rien.
Non, pas 2020, 2025, d'accord. Oui, on s'est fixé l'objectif que 100% emballage recyclable, réutilisable ou compostable avant 2025. Ça fait un peu écho aussi à la loi, hein, qui vous allez voir, la loi sur l'économie circulaire qui fixera aussi 2025 comme une échéance, et au règlement européen. Et donc en fait, en effet, il y a une dynamique qui, pour répondre à la question, me paraît beaucoup plus courte que les 60 années qu'on a eues pour l'économie linéaire.
Mais Carrefour n'est pas tout seul, il y a les distributeurs, mais il y a tous les industriels, et effectivement, ça change d'outil industriel aussi. Donc ça, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 ans.
Mais
on n'est pas, enfin, 2025, c'est pas dans 2 ans, mais
c'est demain quand même. Rapide. C'est demain quand même. Après, quand on parle de 100% des produits recyclables, il va falloir aussi les collecter et les recycler. C'est-à-dire que le minimum, c'est qu'il soit recyclable, mais il faut qu'il soit collecté et recyclé. c'est le pendant. C'est pour ça qu'on s'engage aussi. Oui,
ouais,
pour moi, sur la bouteille, c'est fondamental.
C'est un écosystème complet.
Exactement.
On n'est pas tout seul. D'ailleurs, c'est tout l'objectif du pacte. C'est qu'il y a tous les systèmes de collecte, il y a les collectivités. Mmh. On n'est pas tout seul dans cet enjeu-là. Mais je pense que nous, le secteur privé, ce que l'on a réussi à montrer à travers du pacte plastique, c'est qu'on peut prendre un certain leadership, emmener du monde. Et d'ailleurs, moi aussi, je fais une petite parenthèse, le pacte plastique, venez. Hein, donc, si ici, certains veulent rentrer dans ce combat du 100% en 2025, venez. Je pense que le pacte, on va refaire une deuxième vague de candidatures et bien sûr qu'il est ouvert à tous. Et oui, 2025, l'objectif que l'on se fixe est bien sûr pour créer un écosystème global intégrant tous les acteurs. Et pas uniquement, heureusement, le distributeur ou l'industriel.
Et le consommateur, parce qu'en fait, il y a une éducation des consommateurs aussi, des personnes, des citoyens. J'avais une question aussi, en fait, en disant, un citoyen engagé va pas forcément chez Carrefour pour faire ses courses. Et donc, lui, effectivement, ce citoyen engagé va acheter des produits qui n'ont pas d'emballage ou des emballages totalement réutilisables, etc. Mais, la vaste majorité des consommateurs... Comment on peut les toucher? Comment on peut les toucher pour avoir, alors leur proposer ces produits-là, mais surtout faire en sorte qu'ils mettent dans le bon bac? Il y a des choses là-dessus ou pas?
Alors, il y a des campagnes. Déjà, tous nos produits, on les consigne sur leurs emballages de recyclabilité, mais on voit bien que ça ne suffit pas. On a bien sûr des campagnes de sensibilisation. Après, il y a d'autres éléments. Vous avez des régions où vous avez la taxe incitative, mais ce n'est pas encore, et je pense que ça ne deviendra jamais national. Après, vous avez d'autres systèmes dans d'autres pays où on a parlé de la consigne sur loop. En Allemagne, vous avez la consigne sur les bouteilles en plastique, par exemple. Donc là, c'est une autre forme d'incitation. Et c'est des résultats qui sont plutôt bons. En Allemagne, vous avez plus de 90% de bouteilles qui sont collectées et recyclées. Donc il y a plein de solutions, mais il faut les actionner.
D'accord. Donc moi, ce que je retiens, c'est effectivement horizon 2025. De toute façon, il y a une accélération. Et à horizon 2025, il devrait y avoir une bonne partie, si ce n'est pas 100%, mais une bonne partie en tout cas. Oui, la loi dira, mais ensuite, j'imagine que la loi dit aussi, si tu n'es pas à 100%, il se passe quoi ?
Aujourd'hui, quand on fait des produits, on a déjà des malus au niveau de Citeo sur des produits qui ne sont pas recyclables, etc., hein, qui sont des perturbateurs de tri. Mais comme ils existent, ça ne suffit pas. Peut-être qu'il faut encore aller plus loin. Mais je pense que le gouvernement prendra des mesures si on n'est pas au rendez-vous. C'est évident, je pense.
OK.
À nous de se prendre vraiment en main. Enfin, je veux dire, c'est 2025, c'est demain. Un investissement, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire pour 2025. Donc, à nous de se prendre en main. On lance là, nous, un accélérateur. On va le faire avec Système U, un accélérateur d'innovation. On a identifié 10 emballages qui vont nous poser problème, même jusqu'en 2025. Et là-dessus, on lance un appel à projet international pour des porteurs de solutions, n'importe quel porteur de solutions. Et après, on se retournera vers notre écosystème pour se dire, mais comment on essaye ça? Enfin, je veux dire, le mot, c'est il faut se prendre en main. Le sujet est un sujet urgent, mais pas d'un point de vue environnemental, même s'il est d'un point de vue environnemental. Le consommateur le trouve urgent. Donc en fait, comme le consommateur le trouve urgent, nous, on doit le trouver urgent. C'est clair. Donc je voulais dire, voilà, prenons-nous en main. Rentrer dans la boucle.
Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on travaille ensemble. Déjà, des concurrents travaillent ensemble sur des sujets de catégorie parce qu'ils sont les mêmes. Et on est rentré aussi dans une phase où on s'ouvre vraiment à la société civile. Quand Bertrand parle d'appel à projet, c'est clair que les solutions, elles viennent de partout. Elles ne viennent pas que de notre R&D. Et on est vraiment, justement, en mode collaboratif. Vraiment.
Très bien.
Et juste, c'est vrai qu'il y a cette échéance à 2025. Il y a des jalons quand même beaucoup plus courts sur le projet Loop, qui est à nouveau avec le site indépendant qui a été lancé la semaine dernière. L'idée, c'est que ça s'intègre sur le site de e-commerce de Carrefour à l'automne, puis après en drive, puis en magasin, puis après que ça s'ouvre multi-distributeurs. Et l'idée, c'est vraiment que les industriels aussi rentrent dans la boucle, et vous êtes les bienvenus pour collaborer sur ce beau projet.
Ouais, je ne sais pas si tout le monde a bien entendu qu'il faut rentrer dans la boucle Loop là, pour des candidatures.
Donc, rentrer dans la boucle.
Que ce soit ceux qui veulent signer le pacte plastique ou ceux qui veulent rentrer dans Loop, vous nous contactez.
Il y a eu beaucoup d'appels à rejoindre nous depuis ce matin, mais donc c'en est un de plus et qui n'est pas le plus petit. Donc effectivement, rejoignez cette initiative. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Hugues, à Bertrand et à Françoise.